CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous, bonjour Charlotte.
Salut.
Le MAG du Tarn-et-Garonne consacré aujourd'hui au festival littéraire qui démarre dès aujourd'hui, officiellement. Demain avec l'inauguration au Théâtre Olympe de Gouges et qui va se poursuivre durant 15 jours avec l'invité principal Hubert Haddad qui va être avec nous d'ici quelques instants. On va consacrer chaque soir de cette semaine et chaque soir de la semaine prochaine des moments comme ça à ce festival en rencontrant notamment de nombreux auteurs, écrivains, peintres, différents invités en fait de ce festival. On les recevra dans notre émission. On y consacrera aussi quelques coups de projecteur, Charlotte.
Eh oui. Et notamment ce matin, c'était assez rigolo.
Ouais, alors
à la gare de Montauban.
Tu t'es levé tôt, hein, puisque le festival Lettres d'automne faisait une halte du côté de la station de Matabiau. Non, pardon.
Non, ça c'est Toulouse. Ville-Bourbon.
Ville-Bourbon, voilà, c'est ça. Et dès 6h30, ce matin, il se passait des choses. Il y avait des spectacles, des lectures qui étaient proposées dans le cadre donc d'une campagne de promo, en fait, hein, autour du festival Lettres d'automne. On commence comme chaque lundi avec Toponymie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à tous. La commune de Vazerac comprend, outre les trois paroisses dont j'ai déjà parlé, deux familles nobles dont une possédait le château de Blozac. Ce terme semble bien être un toponyme d'origine gallo-romaine, vraisemblablement Blavitiacum, avec le sens de « domaine de Blavitius ». Ce nom de personne est d'origine gauloise. La motte d'Agrefeuille, attestée au moins en 1298, porte un nom d'origine latin, ou latine plutôt, Agrifolium. Il a donné le mot griful, qui désigne le hou, à partir du sens de feuille pointue, acérée. J'aborde maintenant le canton de Montclar, avec, dans la commune de Bruniquel, la paroisse de Saint-Maffre. Ce saint porte le nom de Saint-Maffrit dans les documents anciens. C'est un nom d'origine germanique, issu de Mart, Fried, dont le sens était force plus paix. Avant de prendre le nom du saint, le site se nommait Sieurac, attesté dès 961. Ce terme d'origine gallo-romaine est issu de Severiacum, avec le sens de domaine de Severius ou Severus, anthroponyme bien connu dérivé de l'adjectif Severus. Dans la commune de Genevrière se trouve la paroisse de Couronde, attestée dès 1113, et dont le nom est issu de l'occitan Curunda, qui signifie poteau, solive, poutre. Ce terme est issu du latin columna, qui désignait une colonne. À Montclar de Quercy, il y a le hameau de Bonneneche, dont le nom semble être composé de l'occitan buno nech, avec le sens de bonne nuit. Il est difficile de deviner la raison d'être d'une telle dénomination pour un lieu-dit. À la semaine prochaine.
Et la semaine prochaine, Paul Burgan, vous le retrouvez sur CFM tous les lundis à 17h et sur cfmradio.fr quand vous le voulez.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Et j'ai le plaisir de recevoir maintenant Maurice Petit et l'invité principal de son festival Lettres d'automne, Hubert Haddad. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici pour parler peut-être de la condition magique. Mm-hmm. C'est le fil rouge de ce festival. Mm-hmm. C'est aussi le titre d'un de vos romans, oui. Hubert Haddad. Vous en avez écrit beaucoup. Mm-hmm. Vous êtes poète, dramaturge, romancier, essayiste. Également, vous peignez.
Je peins aussi, je dessine, oui.
Voilà.
Oui.
Vous illustrez également.
Oui, ça m'arrive. Disons que c'est en marge un peu de mon travail d'écrivain, mais je fais des expos de temps en temps.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait quand Maurice Petit vous a demandé d'être l'invité principal de Lettres d'automne?
Eh bien, j'ai essayé de comprendre d'abord ce que ça pouvait bien être l'invité principal, et puis je me suis dit que c'est une responsabilité et que finalement, c'est une chance aussi. Et parce que tout d'un coup, on me demande d'être invité principal, c'est aussi l'invité invitant. Et ça signifie que je vais être entouré de plein de gens que j'aime et de aussi de d'auteurs qui me passionnent. Je suis c'est à travers moi, c'est tous les autres. C'est tous les autres et c'est cette altérité qui m'intéressait.
Quand j'ai demandé à Maurice pourquoi choisir Hubert Haddad, il m'a parlé, avant toute chose, tu m'arrêtes si je me trompe Maurice, mais de votre écriture qui mêle à la fois l'écriture de la poésie et l'écriture de la prose, du roman, quoi, hein, une espèce de mélange.
Moi je crois que tout vient de l'écriture et quand j'écris dans tous les domaines, j'écris dans tous les genres, autant le roman, la nouvelle, l'essai, la poésie, le théâtre, tous les genres me passionnent.
Mais toujours avec de la poésie.
Je crois que l'écriture, au départ, c'est cela, c'est la poésie. Il y a la poésie, et c'est par la poésie que justement on va ici et là. Et au 19e siècle, il y a des illustres exemples de poètes qui se sont manifestés dans tous les domaines, comme Victor Hugo, et c'était assez courant. C'est-à-dire que il y avait d'abord la poésie est à l'origine des choses, de l'espace littéraire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu compartimenté. Et puis il y a un genre dominant qui celui qui pour des raisons commerciales fait exister les maisons d'édition, c'est le roman. Et le roman aujourd'hui ne participe pas forcément de la poésie, on le voit avec toute cette mode de l'autofiction. Il y a de bonnes choses dans l'autofiction, mais l'autofiction, ça a commencé avec Saint-Augustin, avec Jean-Jacques Rousseau. Mais Rousseau et Saint-Augustin, il y a là une dimension métaphysique, ou en tout cas une vraie interrogation existentielle qui est d'ordre poétique.
En tout cas, effectivement, vous êtes un peu à l'opposé de cette écriture plus journalistique, plus facile à lire, plus télégraphique, plus factuel. Quand on lit une phrase d'Hubert Haddad, il faut l'écouter, raisonner, il faut la regarder aussi dans sa dans sa forme, dans ses courbes.
Il n'empêche que l'actuel.
Elle va pas forcément à l'essentiel.
Il n'empêche que l'actuel m'interroge en permanence, puisque et souvent d'ailleurs. Mes personnages sont des journalistes, des reporters de guerre, dans plusieurs de mes romans qui parlent de l'actualité. Déjà, un roman qui s'appelle Les derniers jours d'un homme heureux, c'était un journaliste qui partait en Algérie chercher une balle perdue parce qu'il s'avait perdu lui-même. Au Liban des songes, c'est un reporter de guerre. C'est un reporter de guerre qui va sur tous les fronts. Sur tous les champs de bataille. Donc, et l'actuel m'interroge aussi à travers mes romans, comme des romans comme Palestine, où je pose des questions politiques, des questions politiques et humaines, bien sûr. Ou Opium Poppy, où il s'agit des enfants soldats en Afghanistan, comme ça pourrait. En fait, j'étais parti au Rwanda et je pensais écrire un roman. À partir de Rwanda et aux frontières du Congo, je pensais que j'aurais situé mon roman là, mais j'ai pas pu après tout ce que j'ai entendu, vu, après l'émotion que j'ai pu avoir, Rwanda. Alors c'est ça, j'ai déplacé les choses et ça se situe en Afghanistan. Donc, c'est pour dire que l'écriture est essentielle, mais ça ne m'interdit pas la réalité rugueuse.
Oui. Mais ça reste toujours dans la forme, dans l'esthétique de la phrase elle-même.
C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est essentiel. Mais quand on dit le style, on s'inquiète parce qu'on pense à Chateaubriand, Grande Draperie. Non, le style, il peut être aussi très efficace. Il peut y avoir une efficacité dans le style, mais aussi une musicalité. C'est ça, le style. C'est cette efficacité, le sens des images et aussi tout ça dans une scansion, un rythme et une musique. C'est vrai que lorsqu'on parle de style, on pense à la poésie, au poète plutôt.
Maurice, je crois que tu voulais intervenir. Non. Non, tu as acquiescé dans
l'ombre. Oui, j'ai acquiescé. Oui.
Pour préparer chaque année Lettre d'automne, je m'astreins à lire au moins un livre des invités. Alors celui que moi j'ai choisi, c'est pas le dernier. Oui. Je l'ai choisi pour justement la musicalité de son titre. Son titre m'a beaucoup plu. La culture de l'hystérie n'est pas une spécialité horticole. Voilà ce roman.
Paru chez Fayard.
Voilà. Que j'ai lu. Et qui m'a énormément surpris, évidemment, hein, qui raconte l'histoire de ce
sortir de prison de Sri Lanka pour une affaire où on est à peine impliqué et puis tout d'un coup se retrouver hérité d'un asile psychiatrique et puis y loger. Ça peut entraîner plein de conséquences.
Voilà, et donc, effectivement, on lit un parcours, une écriture qui sombre dans la folie.
Oui, bon, j'ai voulu questionner la folie. La folie, qu'est-ce qu'on fait de la folie comment on l'interprète, qu'est-ce qu'on en fait, à travers un personnage qui est pris dans une espèce de labyrinthe kafkaïen au sein de cette clinique psychiatrique privée. Et je me suis beaucoup amusé, je le dirais, à écrire ce roman où il y a beaucoup d'aphorismes, beaucoup sur le thème.
Hein. Ouais. Et alors, il se trouve que par un heureux hasard, je suis replongé juste après dans les œuvres fantastiques, les nouvelles fantastiques d'Edgar Poe.
Edgar Poe.
Et j'y ai vu vraiment une similitude.
Ah, Edgar Poe, c'est pour moi, c'est un maître. Oui, bien sûr, Edgar Poe. À travers les traductions de Baudelaire, et aussi à travers celles de Mallarmé pour ce qui concerne les poèmes en prose, les poèmes, la poésie qui est magnifique d'Edgar Poe.
Et alors je me demande, parce que vous allez animer pendant ces rencontres littéraires, Lettres d'automne, pendant 15 jours, des ateliers d'écriture. Mmh. Et je me demande comment on fait pour pas se perdre finalement, parce que c'est foisonnant justement, à la fois dans les aphorismes, il faut continuer la narration, il faut raconter l'histoire, et puis il faut faire des digressions, re-rentrer dedans, et puis il faut que tout ça se soit construit. Est-ce que, Hubert Haddad, vous faites un plan? Est-ce que tout ça est finalement dans votre...
De quand j'écris un
roman. Quand vous écrivez un roman comme celui-ci. Et où est-ce que ça vient assez naturellement?
Là, il y avait une idée comme ça. Il y avait cette, simplement l'idée, le sujet qui tient en quelques mots. Et je suis parti quand même à l'aventure là dans ce roman. Tout dépend des histoires, des romans. Parfois, j'ai besoin d'un plan, presque d'un synopsis. Mmh. Et le plus intéressant, c'est quand j'échappe au synopsis. C'est des choses qu'on n'attend pas. On met comme ça une espèce de filet. Et ce qui fera la force d'un livre, c'est l'inattendu. C'est ce qui va surgir. C'est ce qui va surgir dans un personnage qui n'était pas attendu, une situation, un prolongement qui était absolument pas prévu. Et parfois aussi, on a un plan. Et on s'aperçoit, finalement, on part à écrire le roman, et puis l'histoire qu'on voulait écrire, elle recule, et puis finalement, ce ne sera que la chute. Ça m'est arrivé avec Le Peintre d'Éventail. Finalement, la fin, cette fin dramatique, c'est vraiment les dernières pages du roman, et puis on rentre dans ce jardin, puis on n'en sort plus pendant la... C'est pas un roman très long.
On marque une courte pause dans notre conversation avec Hubert Haddad et on revient dans un instant sur CFM Radio.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
La communauté de communes du Quercy-Caussadet participe pour la 9e année au festival Lettres d'automne de l'association Confluence. Le 27 novembre à 21h, salle de la pyramide à Molière, spectacle Les Harmoniques de Marcus Malt, lu par l'auteur et mis en musique par la chanteuse Virginie Techné et Gérard Morin, contrebassiste de renom. À l'issue du spectacle, un verre de l'amitié en présence de l'invité d'honneur du festival, Hubert Haddad, vous sera offert par la communauté de communes. Spectacle tout public, entrée libre et gratuite.
CFM à Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Toujours en conversation avec Hubert Haddad et Maurice Petit pour Lettres d'automne. On parlait là directement hein, de votre façon d'écrire. Je rappelle que vous allez animer tout au long de ces 15 jours là de temps en temps des ateliers d'écriture, que vous le faites depuis longtemps puisque vous avez fait aussi ça dans les prisons. Donc vous êtes
dans tous les lieux de vie, ouais. dans les hôpitaux, dans les prisons, avec des scolaires, avec des étudiants.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice là?
C'est venu avec, quand j'étais jeune, j'étais un temps instituteur en classe pratique, j'avais 20 ans, et puis ensuite j'étais éducateur de rue. J'étais éducateur de rue dans les banlieues, dans le 93, à Saint-Maur-des-Fossés, dans des endroits comme ça. Et là, j'avais affaire des jeunes à la dérive, et puis souvent ils aiment bien chanter, ils ont on s'est retrouvé dans une MJC puis autour d'une table, et on a inventé l'atelier d'écriture. Ça n'existait pas, l'atelier d'écriture au début des années 70, ça n'était pas encore de mode. Mais mon premier atelier d'écriture organisé, c'était dans un centre de post-cure avec des toxicomanes en post-cure, dans un centre de la Croix-Rouge de post-cure. Après, j'en ai fait avec, en maison d'arrêt à Reims, par exemple. J'ai travaillé pas loin de 15 ans, en allant toutes les semaines, avec des enfants en pédopsychiatrie aussi.
Alors, qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens pour désacraliser, pour les déculpabiliser peut-être, de parfois ne pas arriver à lire un roman dans son intégralité, à sauter
non, mais
des pages.
Même un écrivain est souvent en but et à peine à terminer.
Et comment vous leur dites ça?
Non, mais ça, il n'y a aucun problème. On est simplement, on n'est pas à l'école, on est dans un espace ludique, et il y a plein de livres, j'amène des livres, et puis il y a des livres, de la poésie, on commence comme ça, puis moi je crée des stratégies, et puis je capte ce que les uns et les autres peuvent noter, et puis je mets en liaison, et puis tout d'un coup, quelque chose surgit d'inattendu, qui surprend celui qui les a posés sur la feuille, et puis un intérêt plus intense naît parce que ça parle des choses profondes, des profondeurs, et alors petit à petit, eh bien, de l'écriture déferle. Et quand l'écriture commence à déferler, bon ben c'est parti, il y a plus de problème. Il y a pas de jugement, mais il y a un travail qui à la fin petit à petit aboutit à un affinement de l'écriture, à un usage,
un éveil
un éveil, parce qu'écrire c'est s'éveiller, hein. Écrire c'est
de l'imagination, un éveil de l'imagination. Il faut ouvrir des portes pour arriver.
Écrire c'est lire en soi d'une certaine manière, hein. Donc c'est une autre forme de lecture, mais qui complète, qui est très très importante. Après on sait mieux lire quand on écrit. On sait mieux lire cette dimension, donc on est plus attentif, on comprend mieux un livre quand on écrit soi-même.
Et Bernard, est-ce qu'il vous arrive d'inventer des mots? Je dois avouer que sur le bouquin La culture de l'hystérie n'est pas une spécialité horticole, au bout d'un moment, j'ai arrêté de constamment ouvrir le dictionnaire, parce que beaucoup de fois, je ne trouvais pas les mots.
Dans ce livre, il y a quelques néologismes, hein, je me suis amusé, surtout dans mais en général, non, les mots, ouais. les mots existent. Bon, c'est pas seulement dans le grand littré, hein, mais on les comprend très vite par l'endroit où ils sont placés. Moi, ils surviennent comme ça. C'était le mot nécessaire par sa musicalité, puis son sens. Hein, il devait être là. Mais on me dit souvent que j'utilise des mots rares. Bon, je trouve tellement dommage que tous ces mots soient en déshérence et qu'ils disparaissent alors qu'ils sont. Il y a des civilisations, des cultures de l'oralité où on a 10 mots pour parler du froissement d'une feuille à l'aube quand passe au-dessus un vol de cigogne. Eh bien, il y a 10 mots pour et nous, il faudrait qu'on abandonne tout ce beau vocabulaire. Je trouve ça vraiment dommage qu'on se réduise à. C'est vrai, Racine n'utilisait que quelques centaines de mots, mais c'est vrai que aussi les mots de Racine, on les emploie plus beaucoup non plus. Alors, on en est réduit même pas.
Vous êtes toujours en train d'écrire?
Pas toujours, mais quand je suis partie dans un roman, ça j'écris tous les jours, ouais. C'est pour garder le pour garder la rythmique. Oui. Et pour garder le souffle, pour ne pas perdre le fil, il faut que j'écrive tous les jours.
Ça vous arrive, ça, de perdre le fil et de laisser tomber, finalement, d'abandonner l'écriture?
Ça, ouais. D'abandonner un roman, ça m'arrive. Hein. Et puis, j'ai des débuts de roman, j'en ai un certain nombre. Des fois, il se transforme en nouvelle. Si je m'aperçois après que j'irai pas au bout. Il était fait pour faire 500 pages, mais non. Il en fait, ça en offre un copain. Ça m'arrive de temps en temps, oui.
Hubert Haddad, vous êtes sur plusieurs éditeurs. Comment ça se fonctionne, ça, ce travail-là de l'auteur avec plusieurs éditeurs pour vous?
Au début, j'avais. Au début, on n'a pas d'éditeur. Hein. Au début, j'avais 18-20 ans, j'ai fondé une revue de poésie avec des amis. Et puis c'est comme ça qu'on a connu un peu d'autres écrivains. D'autres... Et puis, bon, c'est La Poste. Hein, un peu au petit bonheur, j'ai envoyé un premier manuscrit. Je me suis retrouvé chez Albin Michel, où j'ai publié 9 livres. Après, le directeur littéraire est parti. Moi, qui suis un sentimental, j'ai suivi le directeur littéraire, lequel a erré chez 2-3 autres à la table ronde. Et puis finalement, bon, j'ai publié au Castor Astral. Le Castor Astral était lié à Safran et à Laure Leroy. Et j'ai publié un premier petit texte chez Zulma. Et puis, Zulma, j'ai découvert un éditeur qui était alors une petite structure, maintenant ça c'est un peu où il faisait un travail de fond formidable, où il travaillait avec les libraires indépendants, où ils avaient vraiment des choix singuliers, ils ne publiaient pas pour publier, chaque livre compte, parce que sinon... Et je suis resté chez eux, je continue à publier chez eux, tout en publiant de la poésie chez Bernard Dumarchais, qui sera là, et qui est un maître, à la fois un maître imprimeur, vraiment quelqu'un qui connaît le métier de la fabrication, et du rapport de la poésie et de l'art. On verra ça au musée, hein, et où c'est une splendide exposition avec tout un tas de peintres, souvent très, très prestigieux d'ailleurs. Mmh. Hein, et puis à l'occasion, je peux publié chez un éditeur qui me demande tout d'un coup d'écrire sur un peintre ou bien sur la danse contemporaine. J'adore la danse contemporaine. Voilà, je suis disponible et puis je travaille dans tous les domaines, donc.
Hubert Haddad, on arrive au bout de cet entretien. Vous êtes pour 15 jours à l'invitation de Confluence.
Et peut-être on peut rappeler qu'ici, il y aura vraiment tout un tas d'auteurs formidables qui vont défiler.
J'allais vous demander justement, je ne sais pas, deux, trois petits points qui vous semblent essentiels dans ces 15 jours-là.
Bon, il y a le thème, hein, mais ça va déborder largement du thème. Conditions magiques, c'est bon, les littératures de l'imaginaire, c'est qu'on... Et ça implique quoi? Ça implique évidemment la francophonie. Ça implique par exemple, pour un haïtien, il y aura James Noël qui sera là, qui est un jeune poète haïtien avec une splendide revue Intranquillité. Un haïtien, pour lui, le réalisme magique, ça veut rien dire, parce que l'imaginaire, c'est le quotidien. Ils sont dans le merveilleux, dans le fantastique, un merveilleux parfois terrible. Hein. Merveilleux, c'est pas toujours gay. Avec ce qui a pu se passer à Port-au-Prince, enfin en Haïti dernièrement, et donc ou l'Amérique du Sud, où les écrivains qu'on aime, Borges, ou les écrivains du monde entier qui vivent dans cet espace imaginaire, mais c'est là, cet espace imaginaire, c'est le même, et ces écrivains comme Château Renaud, comme Serge Peille, avec ses nouvelles de la guerre d'Espagne. Comme
Léonore Amiano.
Léonore Amiano aussi.
Faribas Trudy,
il faudrait tous les citer.
Alors quelques-uns, on aura le plaisir de les recevoir, quelques-uns et quelques-unes, hein, comme Faribas Trudy, justement, qui sera là, je crois, jeudi dans cette émission. Mais chaque soir hein, de ces 15 jours-là, on va être à vos côtés, Maurice, et puis à vous, toute l'équipe de Confluence, pour accompagner le Festival Lettres d'Automne.
Et Jean-Marie Blasse-Robles, avec son livre qui vient de paraître.
L'île du point Nemo.
C'est tous les centrifugeuses de l'imaginaire qui sont...
Que Rémi a lu, je crois.
Ben oui, c'est celui-là que j'ai choisi pour recevoir Jean-Marie Blaise. Et c'est vrai que là, c'est un bouquin
extraordinaire.
Ça part dans tous les sens. Mais j'ai peur que chaque bouquin que je vais ouvrir pour me renseigner et lire un peu les auteurs qui sont présents sur sur ce festival littéraire m'emporte chacun dans un imaginaire assez fou quand même.
C'est un peu le point commun de cette rencontre
entre tous.
Oui, tout à fait. Et puis Kantorowicz, il va nous parler de son monde, le peintre à la librairie La Femme Renard. Je ne sais plus quelle soir. C'est après-demain.
Il y a le programme sur confluence.org et puis aussi sur cfmradio.fr. Vous cliquez, vous trouverez le programme. Il y a une expo quelque part de vos illustrations.
On m'a demandé de donner un certain nombre de dessins en noir et blanc pour la
qui sont en place.
Voilà. Au
Musée Ingres.
Voilà.
Dans deux lieux différents. Ils sont en place. Il y a une partie au théâtre et une partie au Musée Ingres.
D'accord. Merci Hubert Haddad d'être venu ici.
Merci
Maurice
Petit. CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Voilà, et par la magie de la radio, on va se replonger très 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 tôt ce matin à la gare de Montauban. C'est là que démarrait en quelque sorte le festival Lettres d'automne, Charlotte.
Et oui, on a eu un petit avant-goût en fait de cette condition magique du festival qui est un peu le thème de cette 24e édition. Et voilà, c'était une joyeuse ambiance qui s'est emparée des voyageurs avec la compagnie Théâtrophone. Un petit déjeuner aussi était organisé par l'association du festival, donc Confluence, et ça a ravi évidemment les voyageurs. Nous avons rencontré là-bas, autour d'un café, Jacques Rascol, directeur régional de la SNCF Midi-Pyrénées, et Nicole Murcia-Petit, présidente de l'association Confluence. Ils nous ont témoigné un peu cet enthousiasme de démarrer cette édition dans ce lieu de passage.
Mais nous, on est très fiers d'être associés maintenant depuis 4 ans, je crois, à cet événement. On trouve que utiliser la gare comme porte d'entrée du festival, la gare c'est la porte d'entrée de la ville, eh bien, ça nous satisfait, puis ça amène un peu de rêve à nos voyageurs, à nos clients. Lundi matin, les gens partent au travail ou autre, et ils s'arrêtent, ils discutent, donc c'est très 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 bien.
Donc c'est vraiment un temps d'échange, un temps de pause, et puis une façon de redécouvrir aussi un lieu qui est la gare, qui est plutôt un lieu de passage. Là, les gens s'arrêtent avec beaucoup de plaisir.
Du café, du jus d'orange, du jus d'ananas, des mandarines.
C'est vrai que c'est cool des cakes. Ce matin. C'est agréable d'arriver là avec cet accueil. Alors ce que j'ai vu, c'est de l'automne, c'est de la littérature.
C'est le début du festival Lettres d'automne qui a commencé en musique avec la compagnie Théâtrophone ce lundi 17. Il va durer jusqu'au 30 novembre dans divers lieux de la ville de Montauban. Si vous voulez plus d'informations, lettresdautomne.org.
Merci Charlotte, et demain soir c'est l'inauguration au théâtre.
Vous écoutez CFM, c'est les infos.